Bonjour mes frères et sœurs. Finalement, on pourrait résumer toutes ces interventions qui sont très, très, très précieuses de nos frères et sœurs. Comment? Moi, je prendrais le verset qu'a évoqué José. Ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas. Hein, et, ben, en fait, j'avais un titre pour mon message, mais je pense que celui-là, il est mieux. En fait, le titre que j'avais donné, c'est « À la recherche du bonheur ». Et c'est vrai que, bon, en Indonésie actuellement, ils sont en train de couper toute la forêt vierge pour faire de l'huile de palme. Je suppose que tu évoques ça. On a entendu ça à la radio. Bon, voilà. Alors, donc, il y aura plein de production d'huile de palme. Et puis, donc, ben, forcément, ça amène certains insectes, ça chasse tous les insectes. Et puis, l'équilibre biologique, il est complètement... Est-ce que c'est l'homme qui dirige ses pas? Ben, on le voit et puis on voit ce que ça donne. Voilà. Bon, après, il y a des gens qui ont décidé effectivement de dire oh, ça paraît un petit peu trop téléologique. Vous savez ce que c'est la théologie? Téléologie, c'est-à-dire que les choses sont. C'est une science, comme toutes les sciences, et elle consiste à étudier ce qui est piloté, ce qui vient d'ailleurs et qui est. Bon, et qui amène forcément les gens à se dire, tiens, il y a peut-être quelqu'un qui est au-dessus qui est en train de piloter tout ça. Et puis il y a des gens qui décident de diriger leurs pas vers leur propre façon de penser et qui amènent à écarter cette idée de téléologie, qu'il y a un dessein plus. Comment dire un dessein intelligent, ce qu'on dit en science. Hein, et puis ce fameux dessein intelligent, dès que vous en parlez, dès qu'un scientifique en parle, il est pris pour un pauvre et un misérable théologien. Alors qu'en fait, bon, voilà. Mais c'est encore une façon de diriger ses pas, non pas comme Dieu le voudrait, mais comme on le veut soi. Et quand on parle de Marc et de Micheline qui s'en vont, ils disent une chose, en gros, ce n'est pas à nous à diriger nos pas, et je ne sais pas où mes pas doivent m'amener, dit Marc, mais en fait, c'est le Seigneur qui va m'aider à... Bon, bref, finalement... Je crois que je vais m'arrêter, parce que ce que vous avez dit, c'est ce que je vais dire. Bon, enfin bref, si vous me supportez, je vais vous parler de la façon dont moi je présente ces choses qui ressemblent à ça. Mais de manière un peu plus triste et en même temps plus joyeuse. Enfin, je m'explique. C'est-à-dire que, comment dire, quand José a dit ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas, c'est-à-dire que finalement Dieu l'a amené à diriger ses pas sur le gazon du quartier Calais et puis de se retrouver avec l'anniversaire de Ayrton. Hein, et que bon, et puis ce qui nous a été évoqué par Pascal, c'est que ce petit garçon qui est à Glasgow, c'était Glasgow, hein, c'est ça? Il vit en Angleterre, d'accord, qui se retrouve finalement dans une famille avec une veuve qui a justement besoin d'argent et que le papa vient et que dans son portefeuille il y a exactement la somme qu'il faut. Bon, on voit bien que c'est pas à l'homme de diriger ses pas, c'est vrai. Mais ça, c'est des choses positives que vous avez dit. Mais quelquefois, pour ma propre vie, pour la vôtre, je décide de diriger mes pas. Et je dis, en tant que chrétien religieux, chrétien religieux, je dis, hein, je décide de diriger mes pas. Et je dis, Seigneur, ces pas que je fais, ce sont les pas, ce sont les tiens. Et en fait, c'est moi qui décide. Et j'ose dire que c'est Dieu qui décide, qui a décidé pour moi, mais en fait, en gros, c'est moi qui ai décidé pour moi. Et les gens de ce monde font la même chose. Quand ils dirigent leurs pas, ils dirigent leurs pas en ayant une certitude absolue que ce sont les bons pas. C'est là que je devais aller. Et quand le verset que José a évoqué dit, ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas, c'est pas uniquement pour aller sur le gazon dans le quartier Calais, c'est aussi de confesser et de reconnaître qu'on a besoin que ce soit Dieu qui dirige nos pas, mes pas. Et alors, c'est là que ça va moins bien, parce que quand on est dans l'abondance ou dans la joie, c'est facile de le dire, mais quand nous avons une tristesse et un truc qui nous est arrivé, qui fait que nous serons en deuil jusqu'à la fin de notre vie, on a du mal à dire, même si on le veut, ce n'est pas à l'Éternel de diriger mes pas, avec ce sous-entendu, j'aurais bien voulu que mes pas que tu m'as obligé de prendre, j'aurais bien voulu qu'ils soient moins douloureux. Et on aimerait que tous les pas que Dieu nous demande de faire soient des pas sur une vallée remplie de pétales de roses, et que ça aille toujours bien pour nous. Et quand ça va vraiment pas bien, on a du mal à imaginer que ce sont vraiment les pas que le Seigneur voulait pour nous. Alors, je vais reprendre maintenant ma méditation, comme si je n'avais rien dit. Enfin, bon, voilà. Donc, j'avais appelé ça la recherche du bonheur, où ce n'est pas à l'Éternel de diriger, enfin, ce n'est pas à nous de diriger nos pas, mais à l'Éternel de diriger nos pas. Vous avez remarqué que tout être vivant, qu'est-ce qu'il fait? Comment on peut dire que c'est un être vivant? Quelle différence vous faites entre une amibe? Une amibe, c'est ce que c'est qu'une amibe, c'est un truc bizarre qui se trouve quelquefois dans l'estomac et alors vaut mieux pas l'avoir. Et un rocher, un beau rocher, merveilleux, brillant et tout, bien quoi, sous le soleil, c'est beau. Quelle différence entre les deux? Eh ben, il y en a un qui bouge et l'autre qui bouge pas. Et c'est l'amibe qui bouge. Et elle bouge parce qu'elle recherche quelque chose. C'est la vie. Et c'est la vie. La différence entre la vie et la non-vie. Je dirais pas la mort, la vie et la non-vie, c'est que le vivant, il cherche. Il cherche. Alors, vous regardez votre voisin, votre voisine, vous regardez votre chat, votre chien, votre cheval, enfin, si vous en avez un, ou un cheval dans la prairie, il cherche. Il cherche de l'herbe. Bon, ouais. La vache, elle cherche aussi de l'herbe. Enfin bref, ils cherchent tous quelque chose. On a l'impression que la plupart des animaux recherchent quelque chose. On ne peut pas dire qu'ils recherchent le bonheur. Quoique, on ne sait pas. Ils fonctionnent comme des machineries biologiques, les animaux. Et puis, quelquefois, ils recherchent quand même à être en paix, ne pas être en danger. Et puis, quelquefois, on voit qu'ils ont des sentiments et qu'ils ont des expressions de joie ou de peine. Alors, on se dit, tiens, peut-être qu'eux aussi cherchent le bonheur, comme moi, je cherche le bonheur. Et dans la Bible, il nous est dit que la création elle-même, toute la nature, soupire et souffre. Les souffrances, les douleurs de l'enfantement en attendant l'avènement des fils de l'homme. Des fils de Dieu, pardon. Des fils de Dieu, pas des fils de l'homme, des fils de Dieu. Donc, presque tout ce qui est vivant, probablement, est en train d'aspirer après un bonheur. C'est vraiment curieux. Hein? C'est dans Romains 8, versets 19 et 20, 20, 21, 22. Il y a une sorte d'aspiration au bien-être parfait, à un fonctionnement parfait qui se trouve dans la création. Sous-entendu, la création n'est pas sous un fonctionnement parfait. Et nous allons parcourir quelques passages bibliques où on verra pointer cette recherche personnelle du bonheur. Je suppose que vous avez des idées, et puis moi j'ai mes idées, donc je vais vous donner les miennes. D'abord Jésus. Vous remarquez que Jésus est un observateur né, un observateur de sa société. Il s'assoit devant le coffre où on mettait l'argent du temple. Et il voit des hommes riches qui déposent de manière ostentatoire leur superflu. Et il voit probablement d'autres personnes, en tout cas, plus démunies ou moins riches en tout cas, qui font peut-être pas le clown hein, devant le truc. Excuse-moi, je prends l'expression. Hein, c'est vrai, ils sont devant le temple là et puis ils montrent. Bah. Et il y en a d'autres qui viennent avec certainement plus de sincérité. Et puis il y en a une petite veuve que personne n'a vue, personne n'avait remarqué, et il voit le fond de son cœur. Quelqu'un qui donne à Dieu tout. Ça, c'est curieux, cette histoire. On dirait que la souffrance de cette femme ayant perdu ce qui lui permettait de vivre, c'est son être le plus cher, hein, elle avait perdu son homme, elle avait créé une intimité probablement secrète avec Dieu, à tel point qu'elle se disait, vite, il faut que j'aille adorer. Il faut que j'aille adorer Dieu. Et comment je peux faire pour adorer Dieu? Celui qui me permet de vivre, je vais à lui donner de l'argent. Elle va au tronc, là, et elle donne tout ce qui lui permet de vivre. On le sait parce que c'est Jésus qui le dit. Nous, on ne savait pas. Hein. Les gens qui l'ont vu ne savaient même pas. Et c'est Jésus qui dit, regardez, elle a donné tout ce qui lui permettait de vivre. Et on s'aperçoit que de la souffrance qu'elle avait subie, elle était arrivée à une intimité avec Dieu qui l'a menée à donner toute sa vie toute sa vie, si on veut. Hein. C'est drôle. C'est dans Marc, chapitre 12, verset 41-42. Il faut que j'aille l'adorer. Celui qui me permet de vivre, qui me permet d'être bien, peu importe le reste. Donc, elle dirige ses pas. Et elle les dirige vers le temple, mais elle le dirige dans son cœur vers quelque chose qui lui permet d'être bien. Ça nous paraît... quand on juge ça comme ça, du point de vue économique, on n'a pas l'impression que c'est tellement bien, mais pour elle, si. On peut se poser cette question, quels sont les besoins et les motivations qui poussent quelqu'un à venir au temple pour donner tout son argent, pas son superflu. Jésus contemplait donc ces foules, et il les contemplait. On remarque une autre chose intéressante, il s'intéressait à la motivation de chaque individu. Hein, et... dans la foule, il s'intéresse à chaque motivation de tout individu dans la foule. Ce n'est pas une foule, c'est des individus qui font la foule. Ils sont comme des brebis qui n'ont point de berger. Il dit à un moment donné, ils sont comme des brebis qui n'ont point de berger. Il est comme un analyste, comme on dirait en science aujourd'hui. Il analyse les choses, il dit, ils n'ont pas de berger. Ils n'ont pas de berger. Il était aussi ému de compassion pour ces personnes-là. C'est dans Matthieu, chapitre 9, verset 36. Ému. Ce n'était pas un analyste qui marche à l'informatique. Je ne parle pas des informaticiens. Hein. Je parle de la machine qui analyse. Et là, ce n'est pas une machine qui analyse, c'est Jésus qui analyse et qui a son cœur, qui brûle. Qui brûle. Il fait de la sociologie, mais de la bonne sociologie. Les sociologues, la même chose, ils font des études sociologiques, mais... les gens, je ne sais pas si ça les intéresse vraiment. Enfin, je ne sais pas, certainement des sociologues chrétiens, peut-être. Il dit à un moment, à quoi comparerais-je cette génération? Il va essayer de trouver une autre analyse. Au lieu de dire des brebis avec des bergers, il dit, elles ressemblent à des enfants. Et vous vous souvenez de cette idée qu'il analyse et qu'il dit, mais ils sont comme des enfants qui sont mis à faire des complaintes. Et puis, qui ont dit, et puis après, qui ont fait de la flûte pour la fête, et puis qui ont regardé les autres enfants en disant, écoutez, quand on a chanté des complaintes, vous auriez pu vous lamenter. Et quand on a fait de la flûte pour être en fête, vous vous êtes pas mis en fête. Finalement, flûte ou complainte, vous êtes restés les mêmes, insensibles. Vous n'avez pas de cœur. Vous n'aviez pas de... Il n'y a rien, il n'y a pas d'écho de sensibilité en vous. Et il analyse ça pour ces gens, et il parle bien sûr des religieux de son temps, et il leur dit, vous n'avez plus de sensibilité. Vous ne sentez plus rien. Vous êtes mort. Enfin, il n'a pas dit ça, mais c'est un peu ça. On peut se poser donc cette question. Il ressemble à un ethnologue, je dirais, Jésus. Il s'étonnait de rencontrer des religieux insensibles. C'est pas normal. Quelqu'un qui a la crainte de Dieu, qui aime Dieu, ne peut pas être insensible. C'est ce qui nous différencie des scientifiques d'aujourd'hui. Des gens qui ont toute une analyse des pourcentages, des gens malades. Mais ce n'est pas des gens qu'ils analysent, c'est des groupes, c'est des pourcentages. Voilà. Matthieu 11, 16. Ils sont comme des enfants qui sont insensibles. Est-ce que nous aussi, lorsque nous croisons sur le trottoir, par exemple, une personne dont le visage est ravagé, ça se voit quelquefois, hein, pas toujours, mais ça se voit, on dit, mais Seigneur, je ne peux rien faire, je croise une dame ou un monsieur, et puis ça vous est déjà sûrement arrivé de dire, oh, Seigneur, je te prie pour cette personne qui vient de passer, c'est quelqu'un dans le métro, ou je ne sais pas où, hein, mais vous voyez presque la détresse dans le truc, là, dans le visage de la personne. Cette souffrance de ceux qui sont à la recherche du bonheur et qui parfois sont tellement désabusés qu'ils ne le recherchent même plus. Alors là, je prends une analyse un peu bizarre peut-être pour vous, mais c'est une situation dramatique. Je dirais qu'un bébé est à la recherche du bonheur. Il va chercher des jeux qui lui procurent de la... c'est le jeune enfant. Le bébé, lui, il va plutôt téter le sein de sa mère parce qu'il a besoin et qu'il n'est peut-être pas conscient de son besoin, mais en tout cas, il sait que c'est là qu'il faut aller pour pouvoir se nourrir et être bien. Mais je dirais qu'au-delà de sa mécanique biologique, je ne suis pas sûr que l'enfant soit juste un mécanisme biologique et qu'il ait déjà en lui-même le désir d'être heureux. Alors, ça peut se réduire au sein de sa mère, hein, c'est un horizon pour lui, tout petits yeux et un gros bazar qui est devant lui. Et je pense que ça doit correspondre quand même à un besoin de bonheur. Enfin bon, ça c'est moi qui le dis. Voilà. Est-ce qu'il est conscient ou pas, on ne sait pas. Un jeune enfant, en tout cas, déjà, il va rechercher le bonheur. Ça te fait rire? Mais c'est vrai, mais... Oh, bon. Alors, un jeune enfant, lui, il va essayer de trouver des jeux qui vont lui permettre de se sentir bien. Et je pense que sa petite personne déjà formée, elle est consciente d'un manque. Et puis, l'adolescent, il est à la recherche du bonheur. Il va chercher à agir et agir sur son environnement proche, les personnes proches qui lui sont proches, parce qu'il ne trouve pas dans son environnement proche la possibilité d'être réellement heureux. Et alors l'adulte. Alors l'adulte, lui, c'est comme moi, hein, c'est comme vous, enfin pour vous les adultes, il est empêtré dans toutes ses obligations, il est à la recherche d'une satisfaction profonde, il réfléchit en ayant déjà depuis un bon bout de temps constaté qu'il a du mal à trouver la source du bonheur, la plénitude du bien. Je me sens bien. Se sentir bien là où je vais et là où je suis. La recherche du bonheur. Être heureux, c'est donc un ressenti, je pense. Je pense. Et est-ce que c'est être en bonne santé? Oui, peut-être. Encore que on n'est pas tous en bonne santé. Est-ce que ça veut dire avoir tous ses besoins primaires résolus? Oui. Et s'il y arrive à faire ça à l'adulte, est-ce qu'il sera heureux s'il ne se contente que de cela? Alors tout le monde cherche le bonheur, sans savoir où il se trouve, courant à perdre haleine, vers une solution, comme vers un horizon qu'ils n'atteindront jamais, puisque l'horizon, il s'enfuit dès que vous voulez aller vers lui. Hein? Et nous nous apercevons que les autorités de ce monde, je dirais même, les autorités qui sont même au-dessus de ces autorités de ce monde, l'autorité qui est au-dessus de l'autorité de ce monde, finalement, elles considèrent la masse de la population comme un troupeau d'animaux dont il faut assouvir les besoins primaires. De la nourriture, des jeux, et éventuellement des idéaux plus élevés. Syndicalisme, la lutte pour la préservation de ceci, de cela, de la planète, donner à la population un idéal de vie un peu transcendant. Le sport, la culture, les arts, le cinéma, l'internet. Pas trop, mais un peu. Juste histoire que le peuple ne réclame pas trop le vrai bonheur. C'est comme quelque chose qui est comme avec des griffes, vous voyez ce que je veux dire? Celui dans lequel le monde gît sous les griffes du malin. Quelque chose qui empêche les gens de comprendre. Ils sont à la recherche du bonheur sans pouvoir jamais y arriver. C'est terrible. Ça ressemble un peu au jeu du cirque à Rome, vous souvenez, du pain et des jeux. Il faut endormir le peuple, sans qu'il s'en rende compte, parce que s'il s'en rende compte, il n'est plus endormi. Il faut cauteriser la souffrance de son cœur, lui masquer l'essentiel pour mieux le manipuler. Finalement, quand Jésus dit « ils sont comme des brebis qui n'ont point de berger », somme toute, on pourrait dire que Jésus lui aussi dit que tous les habitants du monde sont comme des gens livrés à eux-mêmes, qui n'ont pas de gouvernant, pas de guide, pas de conseiller sincère. Lisez le psaume 107. On ne va pas le lire, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Le psaume 107, le verset 4, le verset 10, le verset 17 et le verset 27. C'est une description de la situation de notre humanité. Une situation de mort-vivant. Ce n'est pas de la télé, ce n'est pas du film, c'est du mort-vivant, vrai, c'est du réel. Une situation de mort-vivant, mais dans la vie courante. Je pense que Marie, enceinte du Seigneur, lorsqu'elle a chanté son chant, son cantique, elle s'est inspirée du psaume 107. Vous pouvez voir cela dans Luc au chapitre 1 et au verset 47. Elle chante de joie de voir qu'enfin Dieu intervient pour consoler les malheureux, pour être le conseiller sincère et parfait. Tous ces gens perdus qui recherchent le bonheur grâce à Jésus qui est en train de se construire dans son propre ventre, tous ceux qui sont à la recherche du bonheur vont le trouver véritablement. Ils ne seront plus bernés par les faux prophètes, par les voleurs et les brigands, comme le dira plus tard Jésus. Donc Dieu, lui, il est à la recherche du bonheur, lui. Nous, on est à la recherche du bonheur. Mais Dieu, est-ce qu'il est à la recherche du bonheur? On peut se poser la question. Eh bien, Jésus est-il à la recherche du bonheur quand il vient sur terre? Moi, je ne le pense pas. Parce que certains versets me semblent clairs à ce sujet. Genèse chapitre 1, verset 31 dit « Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon ». Et on a l'impression de, vous savez, comme quelqu'un qui vient de faire un ouvrage, puis il s'arrête, il s'assoit, puis il dit « Ah, c'est super, je suis heureux. Je suis heureux de nature et j'ai créé quelque chose de parfait et de très bon ». Dieu exprime là qu'il est heureux, pleinement heureux, je pense, de cette création. Et dans Proverbe chapitre 8, versets 27 à 31, il nous est parlé de Dieu aussi d'une autre façon. Dieu trouve son bonheur dans la compagnie des êtres vivants, des êtres humains. Il nous est dit que Dieu trouve son bonheur dans la compagnie des vivants. Il est heureux, il est de nature heureuse. Pour essayer de corroborer encore plus cela, il y a Ecclésiaste au chapitre 7, au chapitre 9 et au verset 7, il est dit « Dieu prend plaisir à voir vivre ses créatures. Mange, bois gaiement ton vin et mange ton pain et bois gaiement ton vin, car dans tout ce que tu fais, Dieu est content de ce que tu fais. » On n'est pas dans la culpabilité, Dieu n'est pas là en train de regarder, non, il est heureux de voir que tout ça, ça bouge et que ça marche bien. Et puis, il y a aussi un autre verset qui est un peu plus difficile, mais qui est toujours intéressant à ce sujet, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 5, il nous est dit « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Dieu a un projet, c'est pas parce qu'il est heureux et qu'il a tout fait, qu'il ne fait plus rien, il continue dans son bonheur à voir quelque chose et à le construire. Et il dit, donc, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et après, il est dit juste, selon le plaisir de sa, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est-à-dire que il est heureux et sa volonté dans son bonheur, c'est de faire ça. Et on pourrait le prendre comme Louis XIV qui disait, oui, tel est mon bon plaisir, je donne, je sais pas, des distinctions à un tel, mais pas à un tel. C'est pas ça. C'est Dieu est dans son bonheur, et dans son bonheur, il a un grand projet, et son projet, c'est de nous prédestiner à être ses enfants d'adoption. Dans 1 Timothée 1, 11, il nous y parlait de conformément, c'est écrit comme cela, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux. Une drôle de formule, mais il nous est bien dit que Dieu est un Dieu bienheureux. Il n'a pas besoin de rechercher le bonheur, lui. Il est pleinement parfait et il est dans le bonheur. On dirait, comment il peut être dans le bonheur en voyant tout ça? Il est dans le bonheur. L'évangile qui a été confié à Paul parle d'un amour qui vient d'une personne qui a un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Et vous comprenez que si quelqu'un recherche le bonheur et qu'en même temps il veut imposer sa conception du bonheur, parce qu'il est dit, un cœur pur, une bonne conscience, une foi sincère. On arrive un peu à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire, il y a des gens qui savent et qui masquent ce qu'ils savent pour dire autre chose. Il y a des gens pervers, il y a des gens tordus. Mais il y a des gens qui ont un cœur pur, des gens qui ont une foi sincère, des gens qui ont une bonne conscience. Ils font pas ça. Ils font pas ça. Vous comprenez que si quelqu'un recherche le bonheur et qu'en même temps, il veut imposer sa conception du bonheur, il pourra toujours chercher. Il ne va jamais trouver. En effet, Dieu sait où se trouve le bonheur. Ce verset que José nous a rappelé, ce n'est pas à l'homme de guider ses pas. Ça ne veut pas dire que Dieu dit, tu veux aller par là, mais moi ça me fait plaisir de te faire souffrir. C'est pas que tu prends, je veux pas moi. C'est pas ça que fait Dieu. Il dit non, c'est pas à l'homme de diriger, c'est pas sous-entendu, parce que moi je sais où est-ce que tu dois les mettre. On sait bien que c'est ça que ça veut dire. Si quelqu'un est un converti dans la salle et qui entend ce verset, ce n'est pas à l'homme de diriger ses pas, il va le prendre comme, mais dis donc, hey, toi Dieu, j'ai le droit à moi de faire mes pas à moi. Et nous, on sait que c'est faux. On sait que Dieu est un Dieu d'amour et qui veut dire à cet homme, à cette femme qui est un converti, mais écoute, tu crois que Tu crois que je suis contre toi? En effet, Dieu sait où se trouve le bonheur. Dieu ne va pas obéir à ma propre conception du bonheur. Il va me dire, tu sais, pour toi, le bonheur, c'est d'avoir ça. Et il va nous sortir un verset, Dieu, pour nous, personnellement. Et chacun a son verset particulier pour sa propre personne que Dieu va lui donner. Je vous donne des exemples. Psaume 34, versets 13 et 14. Quel est l'homme qui aime la vie et qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Tu cherches le bonheur? Réponse. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Oh. Ouais, bah, je vais essayer de ne jamais mentir, et je vais être heureux. Puis si tu fais ça, tu vas voir que c'est pas évident, hein. Mais enfin, Dieu est en train de dire oui, t'es passé ça, mais commence par ta langue, hein. Voilà. Un autre verset, Luc 18, 22. Jésus regarde quelqu'un, un jeune homme. Et rien qu'à le regarder, à entendre ce que ce jeune homme lui pose comme question, qu'est-ce qu'il lui pose comme question? Il lui pose une question, il dit, comment on trouve le bonheur? Parce que moi, je suis juif, hein, et puis je suis un jeune juif, que j'ai été à l'université hébraïque, j'ai fait tout, quoi. Hein, j'ai tout fait bien. Et il me manque encore quelque chose. Je ne suis pas dans le bonheur. Ah. Et Jésus, en le voyant, il l'aima. Il a tout de suite eu... Vous voyez, c'est pas un analyste mécanique. Non, tout de suite, il a aimé ce jeune homme. Mais il lui dit quelque chose, il te manque quelque chose. Vends tout ce que tu as. Tu distribues aux pauvres, tu auras un trésor dans les cieux. Tu seras heureux, tu seras pleinement heureux. Puis tu me suivras. Donc il y a des gens, ils ont dit, c'est pas compliqué, regardez, c'est marqué. Donc la famille bien-aimée au 17e, enfin, avant la Révolution, des gens très riches, je ne sais plus dans quel coin, ils se sont dit, voilà. Jésus nous dit ce qu'il faut faire. Eux qui étaient très riches, ils ont tout distribué. Alors, paysans. Et les paysans étaient très contents, bien sûr. Hein. Eux se sont trouvés dans la dèche, complètement. Ils n'avaient plus moyen de gérer leurs affaires. Et forcément, tout le château, les propriétés, tout ça, ça a périclité parce qu'il n'y avait plus de moyens parce que pour faire fonctionner ça, il faut de l'argent. Et puis il n'y avait plus d'argent. Tout avait été distribué. Devinez ce qu'ils ont fait, les paysans, quand ils n'avaient plus d'argent, puisqu'ils avaient tout consommé aussi, eux. Ils sont venus voir, ils ont tout cassé. Ils sont venus voir les châtelains, et ils ont tout cassé. La façon de concevoir le verset avait été très mal comprise. En fait, ce que Jésus disait à ce jeune homme, toi, tu diriges tes pas vers ce système et tu penses qu'avec ce système, tu vas être heureux, mais c'est pas ça. C'est pas ton système de richesse qui va te rendre heureux, c'est autre chose. C'est me suivre moi. Parlez pas d'histoire de privilèges des nobles et des pas nobles, non. Parlez simplement, toi, tu seras heureux si tu fais comme ça. Donc vous voyez, Dieu, il a pour nous, chacun, un verset qui nous est plus spécifique. Plus qu'à moi, qu'à vous, par exemple. Hein? Deutéronome 30, 19, un autre exemple. J'ai mis devant toi la vie et à la mort, et la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et dans Matthieu, chapitre 5, verset 3, un autre verset encore. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre, hein. C'est pas évident, parce que je ne dis pas que ce n'est pas de votre faute, c'est plutôt de la mienne de ne pas réussir à transmettre ce que je ressens. Pour moi, cette façon d'agir de Dieu est simple. Dieu dit en gros, toi Étienne, ta conception du bonheur, tu commences à comprendre qu'elle n'est pas tout à fait bonne. Et puis, tu peux même aller jusqu'à comprendre qu'elle est complètement fausse. Toi Étienne, tu es de tel type. Je vais te révéler le point le plus important à corriger dans ta vision du bonheur. Quand on aura réglé ce premier point, on passera au deuxième, qui d'ailleurs sera devenu le premier, puisque l'ancien premier a disparu. Bon, j'ai dit Étienne, bien sûr, mais toi, tu peux prendre ton prénom, ton propre prénom, et puis te l'appliquer à toi, hein, bien sûr. On peut reprendre les quatre exemples, si vous voulez, que je vous ai donnés. Psaume 34, ta solution du bonheur. C'est l'usage de la parole? Non, la bonne parole. Luc, chapitre 18, ta solution du bonheur, c'est l'accumulation de richesses? Non, c'est pas ça. Deutéronome 30, ton problème de bonheur, c'est que tu crois que sans loi, sans législation, tu seras mieux? Non, non, non. Et Matthieu 5, ton problème de bonheur, ne serait-ce pas que tu as une trop haute estime de toi-même? C'est pas que tu dois te rabaisser, mais il faut pas non plus que tu aies une trop haute estime de toi-même. Tu dois être authentique si tu veux aller là où tu veux avancer. On pourrait encore traduire ce que Dieu dit d'une autre manière. Mais dis donc, toi, ta propre conception du bonheur, elle est tellement forte que tu estimes que le monde entier devrait l'appliquer. Tu te crois assez tout-puissant pour imaginer que ta vertueuse conception de ce qui rendra le monde heureux, c'est toi qui la possèdes. Commence par régler devant moi cette fausse mentalité du bonheur. Et là, je vous sors un verset, un autre, dans Job, chapitre 38, verset 4. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Ça, c'est aussi pour les scientifiques d'aujourd'hui, hein, et même les créationnistes, hein. Les créationnistes ont tendance à dire c'est comme ça, et puis les évolutionnistes ont tendance à dire c'est comme ça. Mais moi, je serais plus créationniste quand même, hein, bien sûr, puisque c'est Dieu qui a tout fait. Mais prudence, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Oui, Seigneur, c'est vrai. Oh, si, tu m'as donné de l'intelligence, Seigneur, mais pas l'intelligence que toi tu as quand même, hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu entre en guerre. Il entre en guerre. En garde. Voilà, je fais un bruit pour que ça s'entende dans le micro. Dieu prend une épée, il se met en garde contre toi, contre moi. Il va juste lutter avec toi jusqu'au matin. Non pas pour te vaincre, non pas pour me vaincre, mais pour faire évacuer en moi, en toi, cette fausse conception, cette fausse cible que tu crois être le bonheur. Dans sa bonté, Dieu ira jusqu'à même te frapper à l'emboîture de la hanche pour te rappeler que c'est lui qui connaît le bonheur. Alors nous avons capitulé. Nous avons compris dans notre folie qu'on était incapable d'appréhender l'ensemble de l'univers. Excusez-moi du peu. L'ensemble du monde, l'ensemble de notre vie, l'ensemble des problèmes que nous côtoyons, l'ensemble complexe des relations avec nos proches. Nous avons capitulé, nous avons changé de route, nous nous sommes convertis à la pensée de Dieu. Depuis cette capitulation, notre conception du bonheur a évolué. Si, 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 on peut le dire. On a réglé le premier point. On est peut-être passé au deuxième, ou encore mieux, au troisième. Ben, ils sont toujours les premiers, puisque, hein, tchouk, vous savez, c'est comme quand vous faites quelque chose, et puis c'est réglé, vous barrez, et puis la chose qui était prioritaire, pouf, elle prend un cran, hein, bien sûr. Et nous sommes contents. Nous sommes contents. C'est vrai, il ne faut pas oublier, nous sommes heureux. Nous sommes heureux, nous avons été sauvés par grâce. Sauvés par grâce, d'origines diverses et variées, avec des tares que nous avons héritées de nos parents, avec des tares que nous nous sommes nous-mêmes construites. Dieu s'est appliqué à pointer du doigt mon premier point actuel, votre, ton premier point actuel. Oui, nous sommes heureux, mais notre conception du bonheur, elle refait surface. Notre propre conception du bonheur, je veux dire, hein, celle qui était là avant, hein, elle refait surface. Comment? Et c'est parfois plus subtil qu'avant. Nous sommes des religieux, mais nous sommes tous des enfants de Dieu, bien sûr. Des petits Christs, des chrétiens, comme à Antioche. Nous sommes capables de redéfinir la conception du bonheur, mais quelquefois nous redéfinissons la conception du bonheur que Dieu veut pour nous. Ainsi, nous pouvons penser que c'est la même que celle de Dieu. Notre conception, on ose dire que ce n'est pas la nôtre, que c'est celle que Dieu a pour nous. Et en fait, c'est la nôtre. Au lieu de rester dépendant de Dieu pour la conception de notre bonheur, imperceptiblement, nous changeons de cible. La cible que Dieu veut pour nous ou la cible que nous décidons à la place de Dieu. C'est l'homme naturel qui reprend le dessus. Il lutte contre l'homme spirituel. 1 Corinthiens 2, 12. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celle qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu, les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Il y a un petit décalage dans mon cœur, rapidement, facilement, en me disant, oui, si, si, Seigneur, ça c'est la volonté, c'est ta volonté. Non, non, c'est pas sa volonté, c'est parfois ma volonté. Et je ne dis pas que pour savoir quel menu on va faire ce midi pour manger, là, bien sûr, on peut faire ce qu'on veut, je veux dire, c'est pas, hein. Mais c'est sur les directions de nos pas, ces grandes directions pour nos pas solennels dans une direction que Dieu veut pour nous, là le Seigneur nous attend. En conclusion, nous allons lire le psaume 30. Oui, si vous permettez, le psaume 30. Le psaume 30 donne une solution. Enfin, le psaume 30, on va le méditer rapidement, mais pour expliquer ce qui se passe naturellement chez nous, un léger écart de conception entre notre esprit et celui de Dieu. Et Dieu s'éloigne. Donc la souffrance arrive. Je ne dis pas que toutes les souffrances viennent de ça. Hein. Mais c'est le fonctionnement, c'est ça. Lorsque notre conception du bonheur, que nous croyons ou que nous voulons qu'elle soit celle que Dieu nous donne, Dieu s'éloigne. Et donc la souffrance arrive. Nous crions à Dieu, parce qu'on n'est pas bien. Et il revient vers nous, et nous retrouvons le bonheur. C'est le schéma. Vous voyez, tous les psaumes, en général, c'est un peu ça. Donc, lisons le psaume 30 et repérons le verset qui permet de comprendre ce qui se passe. On va essayer de le débusquer ensemble, si vous voulez. Hein? Voulez-vous? Hein? Donc, dans le psaume 30, qui n'est pas très, très, très long, excusez-moi de prendre du temps, je crois que je ne suis pas en avance, hein. Mais c'est important. Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David. Ah, maintenant, ça y est, David, il est roi, super. Saül, éliminé, etc. Tout va bien. Il a encore des ennemis, mais ça va. Maintenant, ça va, c'est le bonheur. Hein? Bon, super, je suis dans le bonheur. Dieu m'a vraiment assis là où je devais être, puisqu'il me l'avait dit depuis très longtemps, par Samuel, etc., qui est mort entre-temps. Etc. Voilà. Psaume cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé et tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive, les pleurs. Et le matin, l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Vous voyez à peu près le chignon ce qui s'est passé. Oh, il est super, il est content. Ça va bien. Je suis heureux. Et puis regardez ce verset clé, le verset 7, comme par hasard, 7. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Je suis chrétien, puisqu'il peut m'arriver. Je suis dans la sécurité de Dieu ou dans ma sécurité à moi que je dis être celle de Dieu. C'est très subtil, cette histoire. En fait, on s'aperçoit que la bénédiction que Dieu nous donne devient une sorte d'idole, carrément. Dieu nous a donné quelque chose, non pas pour que nous soyons dans l'idolâtrie, et voilà que, pouf, tranquille, sans nous en apercevoir, nous dégageons de la dépendance d'envers Dieu. C'est ma sécurité. Je ne chancellerai jamais. C'est une déduction logique de mon cerveau, une réaction nerveuse. C'est tout à fait normal. Je suis dans la paix. Et puis, tu caches à ta face. Éternel, par ta grâce, tu m'avais affermi. Tu avais affermi mes montagnes. Enfin, c'est toi qui as fait tout ça. C'est toi. Alors, c'est ma sécurité. Tu me l'as donné. Non. Dieu ne lui a pas donné un jeton de sécurité. Dieu lui a dit que tu es dans ma sécurité. C'est moi qui te donne la sécurité. Tu penses que toi, tu construis ta propre sécurité. Non. Reste dépendant de Dieu. Et tu caches à ta face et je fus troublé. Vous voyez le schéma dont on a parlé. Voilà. Voilà comment ça se passe. Alors, un dernier verset qui se trouve dans Job, que vous n'avez pas besoin de lire, vous le savez par cœur pratiquement tous, c'est « Mon oreille avait entendu parler de toi ». L'oreille, quand on parle de l'oreille en hébreu, c'est « ozen », ça veut dire « mon entendement ». J'avais compris ce que tu étais. Mais maintenant, c'est plus une conception, quelque chose que j'ai compris de toi, spirituel, hein. C'est mon œil t'a vu. Et qu'est-ce que ça veut dire mon œil t'a vu ? On pourrait méditer longtemps là-dessus. Mon œil t'a vu, ça veut dire je comprends que je ne comprends pas. Comme Jean Gabin, hein, qui disait, moi, je sais que je ne sais rien. Hein, et bien là, c'est la même chose. Je ne sais pas s'il était croyant, Jean Gabin, j'en sais rien, mais en tout cas, Job, lui, était croyant, et il a dit, mon œil te voit. Mon œil t'a vu, c'est-à-dire je comprends que je ne comprends pas. Et j'abandonne ma conception du bonheur. C'est Job qui dit ça, qui est dans la détresse. Il a une conception de son bonheur qui est très proche de celle de Dieu. Mais Dieu l'amène à aller plus loin et à comprendre sa propre conception du bonheur. J'abandonne ma conception du bonheur en voyant la tienne. Hein ? Mon œil t'a vu, c'est Jacques. J'abandonne ma propre conception du bonheur pour prendre la tienne. C'était un acte de foi. Et pour Job, c'est vraiment un acte de foi. Pour nous tous, c'est un acte de foi. Et enfin, le psaume 73, verset 25, que vous connaissez. Vous savez, c'est le psaume d'Azaph où il voit tous les gens qui se moquent de Dieu, puis qui viennent au temple, puis qui font les malins. Et puis lui, il voit plein d'iniquités, et puis lui, il en a marre. Il est toujours obligé d'encourager les gens à chanter. Et lui, il n'a plus du tout envie d'encourager les gens à chanter, parce qu'il est vraiment... Sa conception du bonheur, elle est complètement bouleversée, il comprend plus, quoi. Et à un moment donné, il dit, c'est pas du masochisme, si vous voulez, c'est bien plutôt l'expression de quelqu'un qui a fait un bout de chemin avec Dieu. Et vous voyez dans le psaume 73 en question, et je terminerai comme ça, excusez-moi pour ces 10 minutes de retard, le psaume 73, c'est... On ne va pas lire, hein, on ne va pas commencer à méditer le psaume 73, hein, mais vous voyez, il dit verset 25, quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Hein ? Verset 22 du psaume 73, j'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes, comme un mécanisme d'acquisition du bonheur qui se trouve chez les animaux probablement et qu'ils arrivent à voir, hein. Mais c'est pas la même chose. J'étais stupide et sans intelligence, j'étais à ton égard comme les bêtes, cependant je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite et tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Nous sommes à la recherche du bonheur. Ce bonheur, nous l'avons déjà, nous sommes sauvés par grâce, mais méfions-nous, enfin je me méfie moi-même, notre conception du bonheur imperceptiblement, à un moment donné, on se dit, ouais, ce que Dieu fait pour moi, c'est ça. J'ai compris la conception du bonheur. J'ai plus besoin du Seigneur pour comprendre la conception du bonheur. Et on se rend bien compte que là, légèrement, nous décalons. Et donc, le Seigneur se retire. Son Saint-Esprit s'en va pas, mais il s'éloigne. Il nous a dit, n'attristez pas l'Esprit. Et c'est bien ça. L'Esprit s'éloigne. Il est toujours en nous, hein. Et il ne s'éloigne pas pour nous lâcher. Il s'éloigne parce qu'en faisant ça, pouf, ça va faire. Il va y avoir un système automatique spirituel. C'est presque mécanique, mais c'est spirituel, qui va nous amener à retourner vers lui. Voilà, excusez-moi pour cette durée. Je finis par la prière. Seigneur notre Père, notre Dieu, c'est vrai, ce n'est pas à l'homme de diriger ses voies, c'est pas. C'est à toi. Et nous savons que lorsque tu dis cela, Seigneur, ça veut dire que Non pas tu veux nous contraindre ou nous assujettir à quoi que ce soit, c'est que tu veux nous guider pour que nous comprenions, que nous allions vers le vrai bonheur. Ce vrai bonheur est parfois difficile, il peut passer par la souffrance, mais Seigneur, nous savons que nous sommes sur un chemin pour trouver le bonheur total et parfait lorsque tu reviendras en gloire. Seigneur, bénis tous nos bien-aimés, bénis ceux qui souffrent, qui sont malades, bénis ceux qui sont en train de témoigner de toi par leur souffrance et leur persécution. Demandons que tu nous gardes chacun pour que nous puissions te dire sincèrement, Seigneur, je veux comprendre quelle est la conception du bonheur que tu as pour moi, et non pas dire, Seigneur, Seigneur, fais que ma conception du bonheur soit la tienne. Seigneur, aide-nous à faire le bon choix en cela. Au nom de ton Fils bien-aimé. Amen.